France Culture.
Bonjour le Book Club, j'ai eu le plaisir récemment de visiter l'exposition Fragments du rêve qui m'a sauté aux yeux dans la vitrine. C'est une écriture ample, à l'encre bleue, nerveuse, précipitée, dans un petit carnet. Là j'ai vu que c'était l'écriture de Béatrix Beck. C'est amusant parce qu'on perçoit bien la forme de l'écriture, l'urgence qui était la sienne de capter le souvenir du rêve au réveil avant qu'il ne s'échappe.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui, on ouvre le livre qui manque à notre bibliothèque dans votre book club, celui des rêves que nous faisons chaque nuit. En plongeant dans les archives conservées à l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine, Claire Polan et Olivier Schaeffer dévoilent ce que des autrices, des auteurs, des anonymes écrivent ou dessinent de leurs rêves. Il y a quelque chose qui résiste dans le rêve, un point de silence et d'obscurité qui n'est jamais vraiment dénoué. C'est ce qui fait de toutes ces tentatives pour l'attraper, quelques mots à la plume sur un bout de nappe par Hervé Guibert, des photos, des dessins d'Edouard Levé, un journal de Béatrix Beck, d'émouvants gestes d'écriture. Fragments du rêve, aujourd'hui, dans votre book club. Aujourd'hui, et comme chaque semaine, on prendra ensuite des nouvelles du livre En dehors de nos frontières, direction l'Irlande, où un roman de Claire Keegan ravive la mémoire des terribles maisons maternelles. Et en fin d'émission, on jouera au grand jeu des pages musicales à chercher et trouver de la musique dans les livres. Nous voilà ensemble pour une heure, comme dans un songe. Bienvenue dans le book club. Bonjour Claire Polan. Vous êtes éditrice, historienne de la littérature, spécialiste du XXe siècle et de l'autobiographie. Bienvenue dans le Book Club.
Merci.
Vous signez le commissariat de cette exposition. Vous connaissez bien le fond des archives de l'IMEC pour y avoir travaillé. L'exposition et le livre s'appellent Fragments du rêve et c'est publié dans la collection Le lieu de l'archive. Bonjour Olivier Schaeffer.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous enseignez l'esthétique à l'université Panthéon-Sorbonne Paris et vous signez un très beau texte d'introduction, d'intention, un peu plus qu'une introduction d'ailleurs, plus de 30 pages de Fragments du rêve, qui nous donne bien des pistes. C'est presque une bibliographie augmentée, c'est presque un carnet de lecture. On va évidemment s'attarder longuement sur ce texte. Alors, si vous voulez bien nous dire l'un et l'autre, et peut-être Claire Polan, comment est venue l'idée de cette exposition à l'IMEC et à partir de quel fond vous avez travaillé, de quels matériaux?
Alors l'idée, elle est venue assez naturellement à force de travailler sur les fonds d'archives et de les voir, de les classer, de plonger dans les bas-fonds des magasins de l'IMEC. Je me suis dit qu'il y avait plusieurs sujets d'exposition possibles. J'en ai fait beaucoup à l'IMEC, donc une de plus m'était venue à l'esprit.
Vous voulez égrainer quelques thèmes que vous aviez par ailleurs traités?
J'ai fait Jean et Lyon, j'ai fait la littérature sous l'occupation, j'ai fait pas mal de choses tout à fait intéressantes à chaque fois. Vraiment, c'était la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le débarquement, etc. Et à un moment, je m'étais dit, le rêve, ça serait vraiment magnifique. À la fois parce que c'est compliqué de trouver des récits de rêve, il faut disposer d'un fond qui comporte par exemple un journal ou des lettres qui racontent des rêves. Et puis c'est en plus extrêmement difficile à illustrer. Et j'étais assez consciente de ces deux difficultés. Mais on s'est dit avec Nathalie Léger, la directrice de l'IMEC, que c'était un sujet intéressant justement parce qu'assez compliqué et qui échappe à la connaissance, un peu comme un rêve échappe à la mémoire quand on se réveille et qu'on sait qu'on a rêvé. Mais si on note pas tout de suite, et encore ce qu'on note tout de suite,
est déjà tellement filtré.
C'est déjà, oui, c'est déjà enfui. Et ça, c'était vraiment le côté fuyant de l'archive, correspondant au côté fuyant de la thématique. Ça faisait deux éléments assez excitants.
Mais pour bien comprendre, qu'est-ce qui a été premier? Vous étiez en train, pour voilà le travail que vous effectuez, Claire Polan, de lire, de consulter tous les fonds d'archives de l'IMEC, et vous constatiez de temps en temps que vous tombiez sur des récits de rêves, ou alors un jour vous vous êtes dit, ok, travaillons sur les rêves, et c'est
les
là
deux.
Que vous êtes allé vers des fonds d'archives précis.
Exactement, les deux. Il y a une sorte de première couche comme ça, où on accumule des informations. C'est-à-dire, quand on a décidé de faire cette exposition sur les rêves, je savais déjà à peu près dans quel fond j'allais commencer à les chercher. Ça s'est élargi à 52 fonds, ce qui est aussi le but, c'est de montrer la manière dont l'IMEC est riche de ses fonds d'archives, quand même plus de 600 à ce jour, et de les montrer les uns par rapport aux autres, y compris ceux qui émanent d'auteurs peu connus. C'est aussi un peu le principe des choses. Et puis, quand il s'est agi de faire vraiment une exposition et un livre sur le sujet, là, on a effectivement recentré le propos, commencé à cadrer et à choisir.
Alors, comment on procède ? Donc, vous dites plus de 50 fonds d'archives. Dans ces fonds d'archives, ce ne sont pas tout le fond qui évoque le rêve, évidemment non. Est-ce que parfois il n'y a qu'un billet qui évoque le rêve, qu'un bout de journal qui évoque le rêve ? Est-ce que c'est comme ça que...
Alors on dépouille d'abord les inventaires, on cherche le mot rêve, le mot songe, etc., cauchemar, toutes sortes de une polyphonie comme ça de mots qui recouvrent le sujet. Et après on est muni d'une cote et on descend dans les fonds d'archives et on va sortir la boîte, puis le dossier, puis le sous-dossier, et la sous-chemise, où il y a le document qui peut s'avérer à la fois extrêmement intéressant ou totalement décevant.
Hyper décevant. Ouais. C'est-à-dire qu'il aura été noté dans l'inventaire rêve, et là vous vous dites formidable, il y a de la matière pour moi. Et quand vous allez y voir vraiment, vous ouvrez, c'est quitte ou double.
Oui, mais par exemple, Olivier a su très bien magnifier une page de Maurice Roche où il y avait marqué juste « J'ai rêvé ». Moi, en tant qu'archiviste, j'ai dit « Bon, c'est décevant, il n'y a que ça ».
Moi, j'ai trouvé ça incroyable.
Voilà. Ouais. Et Olivier a montré ça comme une métaphore du rêve, et c'est exactement ça.
Ouais, c'est la première image qu'on a quand on ouvre le livre, et en effet, il y a quelque chose de très émouvant. Peut-être on décrit cette image, Olivier Schaeffer, avant que vous nous disiez l'usage que vous en faites.
Oui, alors cette image est assez simple. C'est une page presque blanche. Et en haut de la page, Maurice Roche a écrit à la plume « J'ai rêvé ». Et c'est tout. Et je trouvais que c'était... et je crois que derrière, il y a des notes.
Il y a une liste.
Je suis tombé sur ce feuillet, vraiment par hasard. Il y a beaucoup de rencontres. Parce que quand je suis arrivé à l'IMEC, suite à cette invitation à travailler sur le fonds d'archives, comme je lui raconte un petit peu, moi, je n'ai pas travaillé à l'IMEC auparavant. Je découvrais l'IMEC tout en arrivant par le rêve, finalement. Et j'ai été pris un peu d'un vertige. Je me suis retrouvé face à tous ces cartons qu'on m'avait sélectionnés pour que je commence à travailler. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? J'ai aucune méthode, en fait. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, j'ai ouvert des dossiers au hasard et je suis tombé sur deux choses qui m'ont frappé. Cette page et puis un dessin de Philippe Soupeau, dont on reparlera peut-être, avec une sorte de bobine, un écheveau du songe. Donc, cette page blanche, je trouvais très beau de commencer par ça, parce que je me suis dit, finalement, le problème de l'écriture du rêve, il est entièrement là. C'est-à-dire, à partir du moment où on écrit les rêves, on ne rêve plus. Et donc, c'est déjà un souvenir. Et donc, c'est quelque chose dont on se souvient et on essaie de reconstituer un souvenir. Et en même temps, comme vous le savez, plus on parle des rêves, mais même peut-être plus on les écrit, et plus ils disparaissent, et plus on les réinvente en même temps. Donc, il y a une espèce de tension que je trouvais effectivement assez fascinante et qu'on mesure, qu'on découvre à travers tout ce fond d'archives d'une grande richesse. Et puis, c'est une quasi-page blanche. Donc, j'aimais bien l'idée que c'était comme un roman qui commençait. C'est quelque chose de romanesque. Pour moi, je l'ai vu un peu comme la première phrase de La Recherche de Proust. Enfin, vraiment, c'est une invitation à développer un fil.
Vous dites d'emblée dans ce texte, Olivier Schaeffer, qu'il y a potentiellement comme ça tous ces filaments de rêves qui pourraient constituer idéalement le tissu d'un texte futur. Et c'est vrai que c'est une exposition qui est tendue vers l'écriture. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est de l'archive, donc c'est du passé, c'est de la trace, et on va bien évidemment discuter de la tension qui existe entre la trace et le matériau du rêve. Mais en même temps, il y a beaucoup de tension vers un texte futur, vers de l'invention, vers de l'imagination. C'est assez paradoxal, mais c'est bien l'intérêt, il me semble, de Fragments du rêve. Peut-être on continue sur un point de méthodologie, Olivier Schaeffer. Donc on a entendu Claire Pollan parler quand même d'un premier grand travail comme ça de sélection. Et finalement, vous arrivez et vous avez un autre régime de sélection. J'ai l'impression que vous avez plus une sorte de manière de vous laisser aimanter par des archives et puis que vous allez les traiter ensuite ?
Oui, c'était un peu l'idée. L'idée, c'était vraiment de penser à partir de l'objet et des rencontres sensibles. Mmh. Comme vous le constatez dans l'exposition et dans le livre, les objets, c'est-à-dire les carnets, les feuilles, les papiers déchirés, les petites notes sont d'une grande variété, d'une grande richesse, et c'est extrêmement émouvant, en fait, quand on se retrouve face à tout cela, pour de vrai, en fait, quand on se tient dans ses mains une lettre Carteau écrite à Jean Pollan et tant d'autres choses extraordinaires. Et donc, j'ai voulu partir de ça, essayer de penser, en tout cas, de construire quelque chose à partir de ça. Évidemment, en arrivant là-bas, j'avais quelques idées préalables. J'ai beaucoup travaillé sur le romantisme allemand. Je me suis beaucoup intéressé à ces questions du rêve. Comment le rêve peut-il s'écrire? Peut-être aussi comment le cinéma se saisit du rêve, etc. Mais au fond, j'étais comme au premier jour, quoi, d'une certaine façon. Je me suis dit, l'expérience est tellement fascinante que partons de ces rencontres et essayons, en bricolant, il y a un petit côté bricolage, de construire quelque chose. Comme, évidemment, c'est une fiction, comme le livre des rêves, à partir de toutes ces archives. Donc ça commence par des pages blanches, par une quasi-page blanche, et non pas par le noir de la nuit. On est dans l'écriture, et puis ensuite, on voit un projet d'anthologie de Francis Lacassin, un grand spécialiste de Tarzan, de la bande dessinée, des cultures populaires, qui avait lui-même un projet d'anthologie de textes sur le rêve, qu'il n'a pas édité. Et donc, on a différents textes comme ça, qui nous donnent presque à voir un livre qui est en train petit à petit de s'écrire, comme si on voyait une table des matières qui se constituait. Et je me suis dit, on va dérouler le ruban du songe, une longue phrase, en fait, qui peut-être s'écrirait à travers tous ces textes.
Oui, il y a vraiment l'idée comme ça, c'est ce que je disais, de tension vers l'écriture, d'une écriture du futur, d'un livre qui serait à venir, mais ça rejoint aussi ce que disait Claire Paulin. Finalement, ça échappe dans les deux sens. Ça échappe vers le passé, ça échappe vers le futur. On ne se souvient pas de tout et rien n'est encore complètement, totalement écrit. Le texte introductif, Olivier Schaeffer, procède aussi comme, vous dites, une table des matières, mais presque comme une bibliographie en avance. C'est un carnet de lecture aussi que vous nous proposez d'emblée. Vous nous proposez comme des outils pour ensuite se promener dans les archives. Vous convoquez Barthes, vous convoquez Paul Valéry, vous convoquez Lacan, vous convoquez Freud. Comme ça aussi dans une espèce de valse presque rêvée. Comment est-ce qu'ils vous ont servi tous ces textes-là à traverser les archives ?
Ben je les ai soit découverts, soit redécouverts. En fait, il y a des textes que j'ai vraiment découverts que je connaissais pas. Parmi les rencontres qui m'ont servi un peu de fil directeur, il y avait ce texte de Maurice Roche, Compact, hein, qui est son premier roman.
Minuscule rappel de qui est Maurice Roche.
Oui, Maurice Roche, c'était un musicien, écrivain, qui a été très proche du groupe Tel Quel dans les années 60, 70, au début avec Jacques Henrique, Philippe Sollers, et qui publie des textes qui sont marqués par le structuralisme, par des sortes d'expérimentations aussi de typographiques, enfin un travail sur l'écriture assez intense. C'est en même temps traversé comme ça dans ce texte par une intuition assez étrange qui est qu'on est dans la tête d'un aveugle ou de quelqu'un qui
perd
la vue. Oui, pardon, c'est Compact. Et donc on se balade comme ça dans une nuit intérieure qui est constituée de souvenirs, de songes aussi et de perceptions. Et donc ce livre, dans sa composition, il y avait 9 couleurs de typographie imaginées par Maurice Roche dans sa composition, dans ses différents agencements de la page, etc., m'a intéressé parce qu'il y avait une espèce de laboratoire de cet agencement possible ou pas d'ailleurs des songes. Hein, comment on essaie Il y avait cette conscience que c'est pas simple d'écrire un rêve et que ça suppose d'interroger soi-même tous ces régimes d'écriture. Donc ça, c'était une des découvertes. Il y en a plein d'autres, on va peut-être pas tout évoquer d'un coup, mais c'est vrai que j'ai été aussi beaucoup très fasciné par l'enquête anthropologique et sociologique du couple Duvigneau, qui d'une certaine façon relate des rêves de catégorie socio-professionnelle, enfin, qui était une chose assez inédite dans la fin des années 70, une sorte de vue, une coupe comme ça de la
ça
la
fait
France.
Rêver, c'est le cas de le dire. Moi, j'ai vu ça. C'est fascinant. Je me suis dit, ouais. J'aimerais vraiment, vraiment avoir accès. Et ça, c'est conservé à l'IMEC,
oui, tout à fait.
Donc, c'est vraiment une grande étude anthropologique. Vous voulez bien en dire deux mots?
Ah oui, c'est un document extrêmement fascinant. C'était parti pour être une enquête un peu journalistique, avec le soutien des Nouvelles littéraires de Philippe Tesson, qui chaque semaine s'est engagé à publier un rêve que lui enverrait n'importe quel lecteur. Et il y avait la déclaration d'intention des Duvigneau parue dans les Nouvelles littéraires.
Donc, un couple de chercheurs.
Oui. Jean Duvigneau et Françoise Duvigneau, et Jean-Pierre Corbeau, le troisième larron. Et dans Cause commune aussi, il y a la même déclaration, mais de manière un peu plus militante, enfin même beaucoup plus militante et beaucoup plus intellectuelle, sur le sort des rêves. Et leur projet, c'est de faire vraiment une enquête journalistique sur ce que les Français, et tous les Français, rêvent dans les années 76, 77, 78. Et ça a été publié en 79, La Banque des Rêves. Et en fait, ils se sont rendus compte assez vite qu'ils avaient là un outil, enfin même un corpus, qui était un outil sociologique et même anthropologique Et maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça devrait être réédité et ça aurait même dû se faire toutes les décennies, une chose pareille. Ce que les Français rêvent, alors, les Français en question, c'est des paysans, des agriculteurs qui sont assez taiseux. Alors, il faut aller avec le magnétophone,
des instits.
Oui, des ouvriers, des instits, mais aussi des fils de commerçants, des gens qui rêvent, qui font partie d'une équipe de football. Enfin, voilà.
Et on s'entend bien, Claire Pollan. Il ne s'agit pas de dire à quoi rêverait. On n'est pas du tout dans un film de Morin. On est vraiment dans qu'est-ce qui s'est passé la nuit.
Oui. C'est la nature des rêves de la nuit. C'est pour ça que, par exemple, les paysans n'ont pas les mots pour le raconter. Alors, il faut qu'ils y aillent avec les magnétophones. Et là, ils ont défini un protocole d'interrogation de ces gens-là. Et on voit que, selon les catégories socio-professionnelles, les gens rusent avec ça, répondent ou ne répondent pas, et trouvent ça très intrusif qu'on leur demande quoi ils ont rêvé dans la nuit, la nuit précédente. Mais il y a vraiment des choses extraordinaires, à la fois dans la qualité des rêves, dans la poésie des rêves, et puis dans l'ensemble, la photographie que ça forme de la France des années 70. Quoi.
On va écouter un premier texte, c'est un texte qu'on trouve dans l'exposition et dans le rêve et dans le livre, ça fonctionne bien votre affaire, Olivier Schaeffer. C'est un texte de Jean-Louis Chrétien, il s'intéresse à la parole et à cette tension qui existe entre rêver et dire, et même écrire le rêve.
De l'obscure clarté où nos rêves scintillent, jamais nous ne parlons qu'au grand jour, franchi le détroit de l'éveil. Et ce détroit est sans retour. La parole qui les raconte est toujours déjà de l'autre côté. Elle ne redit pas ce qui aurait pu être dit au présent, elle ne reconstruit pas, comme celle du souvenir vigile, au passé tel qu'il fut en lui-même. Elle efface ce qu'elle entend manifester, comme le saisit si bien le langage populaire qui, d'un événement ou d'une scène répétant ou rappelant un rêve, dit qu'il l'efface. Ici, la limite est poreuse entre inventer et se souvenir. Et à quelque distance, le souvenir souvent n'est plus que du récit lui-même. Ainsi que pour ces anciens combattants qui, à force de narrer leur bataille, n'ont plus à la mémoire que leur narration. La parole sur le rêve jamais ne peut donner au rêve la parole. Le dire a même sa propre manifestation. La simple datation du rêve est signe déjà de cette irrésistible faille. Seul l'homme éveillé peut assigner à son rêve une place dans le temps de l'expérience.
Ce sont des notes de cours, Les deux rêves, 1983, de Jean-Louis Chrétien, poète, philosophe, mort en 2019, grand penseur de la parole. Et on entend bien la tension qui d'emblée existe entre rêver et dire son rêve. Et puis peut-être la trace de cette parole-là, puisqu'on traverse des archives et que même si vous avez parlé d'enregistreur, de magnétophone, Claire Pollan, nous, ce qu'on a le plus souvent sous les yeux, ce sont des dessins, ce sont des textes, taper à la machine ou griffonner avec un crayon. Pourquoi est-ce que ce texte de Jean-Louis Chrétien, il informe ou il nous donne aussi des outils pour attraper les archives des textes qu'on va ensuite côtoyer dans ce livre ou dans cette exposition. Claire Pollan, puis Olivier Schaeffer.
Ne serait-ce déjà parce qu'il pointe cette frontière poreuse entre souvenir et invention qui est la base de tout récit de rêve et de toute lecture de récit de rêve. Et ça, dans les archives qu'on a à l'IMEC, on a beaucoup d'archives d'écrivains, de poètes, de littérateurs, de critiques, de journalistes, etc. Mais de gens pour qui la littérature, l'écrit, est quelque chose d'extrêmement important, qui font attention à leur choix de mots. Et donc les archives qu'on a pu montrer illustrent parfaitement cette frontière assez impalpable entre la précision du souvenir et la tentation de l'invention.
Et comment ça se voit, par exemple, concrètement, dans des archives? Comment on voit cette tension-là? Parce que là, on l'entend bien que Chrétien la théorise. Et il la théorise brillamment. Mais après, quand on a les objets, quand on a les fameuses petites boîtes sous le nez, comment cette tension-là, elle est rendue palpable par l'archive?
Eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont des traces tout à fait...
Buvez autant que vous voulez.
Il y a des traces qui sont tout à fait perceptibles dans le manuscrit. Si on prend par exemple les rêves d'Althusser, qui sont des rêves très très longs, tapés à la machine, dont on se dit, mais comment est-ce qu'il peut souvenir d'autant de avec autant de précision?
Et ça s'est trouvé dans quoi, par exemple?
Dans le rêve de
Louis Althusser.
Dans le fond, Althusser.
Mais c'est un journal, c'est,
non,
c'est des feuillets.
Alors, c'est des rêves qu'il a. Il rêvait énormément. Il en a parlé à son psychanalyste. Son psychanalyste lui a dit, écrivez vos rêves. Il a commencé avec sa femme, Hélène Rittmann, à noter manuscritement les rêves. Et puis, il les a retapés à la machine. Certainement en les développant. On se retrouve avec des rêves qui font 5 ou 6 pages et qui ont été publiés sous une forme extrêmement longue. Et bien sûr, on peut se dire, est-ce qu'il est possible d'avoir autant de souvenirs? Est-ce qu'il est probable qu'il ait inventé?
Et puis, voilà. D'emblée, se pose la question de la frontière évoquée par Louis Chrétien, c'est-à-dire à partir de quand, si même cette frontière a du sens en réalité, à partir de quand on est seulement, va-t-on dire, du côté de la réminiscence du rêve qui a eu lieu la veille ou la nuit, et à partir de quand on commence à écrire. Sauf qu'en fait, cette question, elle est d'emblée un peu chahutée même par la pensée même de l'inconscient, Olivier Schaeffer. C'est que dès lors que le langage, et c'est ce qui arrive aussi dans le texte de Jean-Louis Chrétien qui dit « Celui qui raconte, c'est l'homme éveillé », dès lors qu'on raconte, on ne rêve plus, dit Chrétien.
Oui, il le dit, bien sûr, de l'obscure clarté où nos rêves scintillent. Nous ne parlons qu'au grand jour. Donc, il y a effectivement quelque chose d'absolument infranchissable. Et en même temps, Jean-Louis Chrétien est un penseur de la parole, vraiment. Vous l'avez bien souligné. Et pour Chrétien, la condition même de la parole, ce qui relie d'ailleurs peut-être la question de la parole poétique et d'une parole peut-être plus religieuse, parce qu'il était très marqué par la tradition notamment de Saint-Augustin, c'est l'écoute. Il y a une différence, et on est à la radio, donc c'est intéressant. Je pense qu'il y a une différence radicale entre communiquer et parler, hein, parce que la condition de la parole, la vraie parole, c'est d'écouter avant de communiquer ou de transmettre. Et donc, lui, ça lui pose évidemment cette question fondamentale, comment peut-on faire quelque chose à partir de ces rêves qui, par définition, nous échappent. Donc, ils sont...
C'est aussi la distinction qui est faite quand même, on n'a pas prononcé ce mot-là depuis le début de l'émission, mais par la psychanalyse, qui fait une différence notoire entre la parole de communication et la parole qui a lieu dans l'analyse, pris dans un transfert, éventuellement allongé, et où d'un seul coup, on est hors de la parole de la communication.
Tout à fait, oui, absolument. Et en même temps, on est aussi dans la production du récit. Hein, on parlera peut-être tout à l'heure de Georges Perec, mais voilà, il a suivi une analyse avec Jean-Bertrand Pantalis. Alors, Chrétien, lui, c'est dans un autre registre, je crois, que celui de la psychanalyse, où il intervient, c'est vraiment celui de la philosophie et de la poésie. Il est très attentif, c'est ça qui est très beau dans le texte que vous avez lu, à ce qu'il appelle le vacillement du sens, propre rêve. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ce vacillement du sens? Et moi, je dois dire, c'est ce qui m'a vraiment fasciné dans ces archives, c'est-à-dire que font les rêves sur l'écriture, hein. Nous, on est dans une scène occidentale depuis bien longtemps qui est régie par un modèle qui est au fond celui d'Aristote, hein, de la poétique, à savoir qu'une œuvre d'art, elle est dotée d'un milieu, d'un début et d'une fin, comme un être vivant. C'est la naissance, c'est la croissance et la mort. Est-ce que raconter un rêve, c'est le soumettre à ce schéma-là, hein, qui a été évidemment malmené depuis, mais enfin qui est quand même un grand schéma, ou est-ce que justement les rêves font exploser ces schémas narratifs, hein. Ils font trembler quelque chose du langage.
Mais alors, donc, si ils échappent complètement. C'est quoi? C'est que la question du sens ou c'est aussi la question du début et de la fin?
Non, c'est la question du début et de la fin. Parce que est-ce qu'il y a un début et une fin des rêves? Les rêves arrivent, tout fait, dit un des auteurs. Hein. Il y a séquence, non-conséquence, dit Paul Valéry. Donc, on ne sait pas si un rêve a un début et une fin. Et en même temps, ce sont, comme vous savez, comme on le sait tous, ce sont des petits scénario constitué, souvent très articulé, très intense, mais on a toujours l'impression que le début ou la fin nous échappe. Hein. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Donc, les faire entrer à toute force dans un schéma est compliqué, et c'est eux-mêmes qui nous amènent à repenser peut-être l'écriture. Hein. C'est ce qu'on découvre au travers de ces archives.
Hein. Mais justement, ça m'intéresse encore de vous interroger l'un et l'autre sur la manière dont ça se manifeste physiquement dans les archives.
Alors moi, je pense qu'il y a une façon... Pardon.
Allez-y, mais sur ce début et fin, c'est-à-dire que je trouve que la présence des notes, par exemple...
Justement, j'aurais peut-être deux réponses, et puis Claire, tu en auras sans doute d'autres. C'est pourquoi l'ensemble s'appelle « Fragments du rêve
».
C'est-à-dire que ce sont des fragments, il manque toujours quelque chose, c'est bordé, c'est nimbé d'oubli. Hein. Donc ils sont arrachés à un texte plus vaste ou à une pensée plus vaste, on ne sait pas. Ils arrivent par bribes, et en même temps, voilà, ils font sens, on peut les composer. Donc les écrire, c'est peut-être travailler, c'est un travail de montage, en fait. ce que j'ai essayé de faire dans le livre. Mmh. J'en sais des fragments. Mmh. Et puis il y a une autre façon, une autre manière. Moi, c'est le deuxième objet qui m'a beaucoup fasciné quand j'ai commencé, ce dessin magnifique de Philippe Sbeau, hein, Le poids des songes au feutre violet, dans les années 90, mmh. je crois. Il dessine une pelote comme ça, mmh. Une espèce d'écheveau de songes. Et ce trop côté beau. Pelote, c'est magnifique, hein. Mm. C'est abstrait et c'est très précis en même temps. Et en rentrant dans tout ça, je me suis dit, je vais tirer un fil, c'est ce que j'ai fait littéralement. Et quand je suis tombé sur les manuscrits de Béatrice Beck, j'ai revu ça. C'est-à-dire que quand elle est jeune, elle tient plein de carnets de ses rêves et de ceux de sa fille Bernadette. Et il y a des moments d'une intensité, d'une émotion incroyable où, quand c'est le plus difficile, quand il y a quelque chose peut-être impossible à dire, elle rature et elle fait sa pelote. Mmh. Et on se dit, c'est pas juste une pelote qui cache, elle montre aussi ce qu'on ne peut pas dire. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de...
Elle matérialise dans le trait...
L'indicible.
Oui, et aussi l'indicible. Mais c'est très beau, parce que c'est à la fois l'indicible trop noir, où il n'y a plus de mots, quoi, mais aussi l'enchevêtrement infini, quoi. C'est vraiment la manière dont toutes les textures se tiennent ensemble, se superposent, s'entremêlent.
Et c'est l'ombilique du rêve selon Freud. Enfin, c'est aussi cette idée, hein, que dans le rêve, il y a un point qui résiste à l'interprétation. Et il dit que le désir du rêve naît de ce point obscur, comme le champignon naît de son mycélium, vous savez, de cette mousse entrecroisée. Voilà. Ça naît de ça.
Parti loin de moi, loin d'ici, avec toi, je marche sans bruit, je marche tout droit dans la rue, la pluie. Je me sens bizarre, difficile à décrire, comme si je t'ai visé de loin par ton sourire. Je sens ta colère, ton envie, ta détresse, ta solitude profonde, ta très grande tristesse. Oui, je me sens bizarre, difficile à décrire. Je préfère en pleurer parce que j'ai trop peur d'en rire.
France Culture, le Book Club. Marie Richeux.
Dans le langage, il y avait une part que nous ne pouvons pas saisir de face directement. Eh bien, je crois que dans le rêve, nous avons malgré tout une imagination qui nous permet de nous représenter plus ou moins exactement, enfin, cette difficulté essentielle de notre pensée.
Est-ce que pendant longtemps, le rêve a joué dans votre pensée un rôle important?
Oui, un rôle très important. Je pense qu'il est très essentiel. Je crois qu'il met en lumière certains traits de notre pensée dont nous ne sommes pas conscients. Il est normal dans un rêve qu'une rivière soit à la fois un crocodile, un homme et une sorte d'ange ou de démon.
L'enrichissement du rêve est très important pour le langage?
Je pense qu'il est important s'il y a dans le langage cette part insaisissable, invisible, dont je vous parlais tout à l'heure.
C'est si délicat, cette voix. La voix de Jean Paulhan en 1966, diffusée sur France Culture. Jean Paulhan, critique, écrivain, et votre grand-père, Claire Paulhan, ça fait partie des fonds d'archives qui sont convoqués pour cette exposition et ce livre « Fragments du rêve ». Qu'est-ce qu'on y trouve de singulier? On l'entend là parler de l'aller-retour entre les rêves et la vivification du langage.
Un petit peu compliqué pour moi à expliquer rapidement, mais toujours est-il que Jean Paulhan a essayé pendant toute sa vie non seulement de prendre ses rêves au sérieux, comme il le disait, mais d'en comprendre le sens, la nature, le rôle dans sa vie. Et est arrivé au milieu, au début des années 20, les traductions de Freud en français. Et avec son collègue Jacques Rivière à la NRF, ils étaient tous les deux extrêmement attentifs à ces textes de Freud, qu'ils soient en allemand ou qu'ils soient en français. Mais rapidement, Jean Paulhan a trouvé que c'était une sorte de réduction qu'interpréter ses rêves qui nous arrivait comme un immense trésor d'images, de poésie, de littérature, et qu'il fallait la garder comme telle. Mmh. Et il a essayé de contourner l'obstacle que représentait l'interprétation des rêves de Freud, enfin l'assèchement qu'il y voyait en tout cas par rapport à la littérature. Et on pourrait faire une comparaison avec le rôle de la politique après la Seconde Guerre mondiale, mais bon, c'est un autre sujet.
Ça semble intéressant, mais ça me paraît trop vaste pour aujourd'hui.
Oui, absolument. Et moi-même, je ne saurais pas le traiter. Bref, jusque dans les années 50, et donc en 60, là, lors de cet entretien, il a réfléchi à cette part qui occupe quand même la moitié de nos vies et qui nous échappe depuis toujours et probablement encore pour un certain nombre de décennies.
Et alors, comment ça existe dans le fonds d'archives Jean Paulhan qui est conservé à l'IMEC ?
Alors, il y a plusieurs types d'archives. Il y a des archives dactylographiées, des textes qui ont été publiés. Il y a des archives manuscrites. Et on trouve aussi, en 1904, par exemple, des archives qu'il a, des petits cahiers qu'il a tenus quand il était élève à Sainte-Anne et qu'il écoutait les aliénés, qui, à l'époque, quand elles racontaient leurs rêves, étaient considérées comme des femmes en plein délire. Voilà. Et déjà, en 1904, en notant ses rêves, il y voit une poésie majeure. Quoi.
Et une manière de prendre au sérieux aussi, de prendre le sujet au sérieux. C'est aussi de la dignité que de prendre en note ce contenu qui est dit et qui est prononcé par ces femmes-là en 1904. Vous avez parlé de Georges Perec, qui a une place importante. En effet, dès le départ et dès le début de votre texte, Olivier Schaeffer, on va écouter une archive de 1976. Lui aussi, il parle de la place qu'il fait au rêve. Et puis, on entendra un extrait de La boutique obscure que vous choisissez aussi pour commencer à réfléchir, continuer de réfléchir à ce grand livre des rêves que vous composez.
Bon, on fait un rêve. Et ce rêve, en général, ou bien on l'oublie, on se souvient d'avoir rêvé, ou bien on ne se souvient pas. On le raconte, parfois. Parfois, on l'écrit. Qu'est-ce que c'est qu'écrire un rêve ? Qu'est-ce que c'est que le rêve comme matériel d'écriture ? Pour moi, le fait d'écrire ses rêves, ça a consisté à noter dans la nuit, en général, le plus brièvement possible, le plus rapidement possible, l'ensemble d'images qui constituent un rêve, l'impression centrale du rêve, et ensuite de ne pas en bouger. Je veux dire, d'introduire le minimum de modifications à partir de cette espèce d'état initial, de brouillon initial que j'avais noté. Ce qui se passe de très exaltant, c'est que quand on a fini d'écrire un rêve, qu'on sent vraiment qu'il est en place, il vous est restitué par l'écriture d'une manière intacte.
Tout le monde fait des rêves. Quelques-uns s'en souviennent, beaucoup moins les racontent, et très peu les transcrivent. Pourquoi les transcrirait-on d'ailleurs ? Puisque l'on sait que l'on ne fera que les trahir. Et sans doute, se trahira-t-on en même temps. Je croyais noter les rêves que je faisais. Je me suis rendu compte que, très vite, je ne rêvais déjà plus que pour écrire mes rêves. De ces rêves trop rêvés, trop relus, trop écrits, que pouvais-je désormais attendre sinon de les faire devenir des textes, gerbes de textes déposés en offrande aux portées de cette voie royale qu'il me reste à parcourir, les yeux ouverts.
C'est même l'exergue de votre texte, Olivier Schaeffer. Je ne rêvais déjà plus que pour écrire mes rêves. Georges Perec, La boutique obscure, on l'entendait. Il dit presque deux choses un peu différentes dans l'archive et dans le texte. Dans l'archive, il a l'air de considérer que l'écriture est le moyen parfait pour retrouver son rêve. Et dans La boutique obscure, il a plutôt tendance à dire que attention, c'est vraiment l'endroit où l'on se trahira. Mais quoi qu'il arrive, écrivons, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment ça que dit Perec.
Allons-y, oui. C'est vrai, il tient les deux choses en même temps, la mémoire, qu'est-ce qu'écrire ses rêves, il le dit, hein. La mémoire, il oublie, et c'est ça qui est très beau, parce qu'en l'écoutant, là, il a la voix extraordinaire, on entend ça, c'est-à-dire que les rêves, il note des brouillons, Donc déjà des textes. Et ensuite, quand il les écrit, au grand jour, on va dire, il retravaille des brouillons qui lui ont été comme soufflés par sa nuit. Ce qui est très beau aussi, vous savez que Perec était en analyse avec Jean-Bertrand Pantalis, hein, le psychanalyste freudien, et il a raconté qu'il a volé en quelque sorte des rêves qu'il offrait à son analyste.
Hein. Et, c'est-à-dire
donc, c'est-à-dire qu'il il racontait ses rêves, en fait, à Pantalis.
Normal, hein, oui. Et alors quoi, voler?
Parce qu'ensuite, il se retrouve dans son livre.
Ah, il se les vole à lui-même.
D'une certaine façon. Ah. Enfin, voilà, il y a une espèce de déplacement qu'il opère. Et c'est intéressant par rapport aussi à cette question de l'inconscient. En écoutant tout cela, je me demande si on n'est pas dans une opération très différente, finalement. Je ne sais pas ce que tu en penseras, Claire, mais de ce que les surréalistes ont tenté de faire, hein, de se brancher en quelque sorte directement sur l'espace de l'inconscient, des songes, en se délivrant du contrôle de la raison, hein, comme dit Breton dans le manifeste de 24.
Ça, c'est intéressant. Peut-être que, justement, on peut préciser pourquoi est-ce que c'est différent ce que suggéraient de faire les surréalistes avec notamment l'écriture automatique en levant le surmoi, on va dire, en levant le contrôle. Ouais. Et ce que vient de dire Perec.
Je ne sais pas si c'est opposé, mais en tout cas, il y a peut-être une différence qui tiendrait au fait que les surréalistes tentent de sortir de la littérature. Alors, je ne sais pas s'ils sont arrivés. D'ailleurs, ils ne sortent pas de la littérature, ils sont dans la littérature. Mais d'une histoire de la littérature, d'une histoire du travail sur le texte, du repentir, de la correction, etc. En réalité, bon, on sait que le travail génétique sur, par exemple, les champs magnétiques montre que les textes hein, des surréalistes issus d'écriture automatique, Breton et Suppot, ont été quand même un peu retravaillés. Alors que Perec assume complètement le fait d'être un éditeur et d'écrire. Il donne même des notices très précises au début de La Boutique Obscure hein, en expliquant que les alinéas, quand il réécrit un brouillon de rêve, les alinéas, correspondent à des changements d'humeur, de tempérament, etc. Et les espaces entre les paragraphes correspondent au passage oublié. Donc il essaie d'écrire aussi ce qu'il oublie, mais il se dote de règles. Comme ça, c'est le côté un peu Oulipo, hein, des contraintes qu'il se donne. Donc peut-être il y a un rapport différent aussi à la littérature hein, qui se
et à l'usage aussi.
Et à l'usage.
Ouais. Je voudrais qu'on s'attarde sur ce mot brouillon que vous utilisez pour parler de Perec et quel sous-titre aussi du
livre. Un des mots, oui. Brouillon,
vision, fantôme. Et jusqu'à maintenant, on s'est assez peu intéressé à cette idée du brouillon, sauf à dire que tout tendait vers un texte futur. Donc il y a l'idée que la nuit, les rêves seraient un brouillon non écrit, et ensuite le brouillon s'écrit, et ensuite peut-être le texte à partir du brouillon écrit peut aussi s'écrire, Olivier Schaeffer. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la notion du brouillon, y compris graphiquement, parce que vous avez parlé tout à l'heure de ce document et de cette espèce de spirale gribouillée, mais c'est, toutes les archives, elles ont un peu cette qualité du brouillon, je trouve.
Oui, enfin, d'une certaine façon, même quand elles ne sont pas brouillonnes.
Exactement.
Au sens où elles nous donnent, parfois d'ailleurs, à voir les états divers d'un manuscrit qui va être édité. Parfois, ils sont inédits, parfois, ils sont édités. Et elles restituent, du même coup, le texte à un état de l'habilité, comme si, à travers ces différentes versions, il redevenait un texte en train de s'écrire, justement, en devenir... Mmh. Potentialité pas achevée. Ça rend la littérature à son essence, peut-être, qui est son travail, en fait, qui est le lieu de l'élaboration. Et puis, brouillon, là, évidemment, moi, ça évoque une chose qui présente dans le texte, c'est le grand texte de Novalis, qui s'appelle Le Brouillon Général, hein, Das Allgemeine Brouillon, qui est un projet d'encyclopédie romantique, qui est un texte qui me travaille depuis très longtemps, que j'ai traduit aux éditions Alia, et sur lequel je reviens souvent, et qui est un composite assez fascinant, qui est une espèce de contre-encyclopédie des Lumières, hein, et en même temps qui est une tentative d'agencement de pensée, de rêve, de sensation. Et donc c'est l'idée que le brouillon, c'est un laboratoire, si je devais simplifier.
Il y a quelque chose de très dynamique, en fait, dans tout ça. C'est-à-dire que, quand vous dites, c'est finalement le rôle de la littérature que d'être tout le temps en train de se faire. On entendait aussi dans l'archive Jean Paulhan parler de la manière, je paraphrase mal, mais dont le rêve et ce véhicule revivifie le langage, vient le renouveler. Et là, je suis encore tombée sur une archive du fond Jean Paulhan, rêve en rond. Le rêve s'enroule en rêve. Glisse et se perd, au matin je le cherche, où est-il? Chaque nuit il vient et chaque jour je le cherche, un jour je disparais et les rêves me cherchent. Il y a beaucoup de mouvements, je trouve, dans les archives que vous avez agencées. Claire Paulhan.
Oui, il y a le mouvement de la littérature qui cherche à décrire ces fameux rêves, à exploiter cette source d'images et à faire en sorte que la psychanalyse n'assèche pas tout, n'assèche pas tout le terrain. Et il me semble que ce qu'on voit aussi dans l'exposition, c'est que la psychanalyse, les théories psychanalytiques sont venues codifier les rêves, essayer de les comprendre, mais en même temps ont enrichi complètement et énormément les interprétations que pouvaient faire les gens qui ne voulaient pas se cantonner à la psychanalyse. Non, mais il y a un autre mouvement.
Vraiment, tout échappe, oui. Vraiment, dans cet objet-là. Mais c'est bon signe, non? Quand ça veut partir dans tous les sens.
C'est hyper intéressant.
C'est toujours de bon signe. On va écouter la voix d'Émilie, auditrice du Book Club. Elle a eu la chance de visiter cette exposition à l'IMEC et elle a été très interpellée par les journaux de Béatrix Beck.
Bonjour le Book Club, bonjour Claire Pollan et Olivier Schaeffer. J'ai eu le plaisir récemment de visiter l'exposition « Fragments du rêve ». Et ce qui m'a sauté aux yeux dans la vitrine des rêves notamment, c'était l'écriture de Béatrix Beck, dont j'adore toute l'œuvre. Et en regardant ce carnet, j'ai réalisé à quel point l'œuvre de Béatrix Beck doit certainement beaucoup finalement à ses rêves et à ses cauchemars. Et ce qui est toujours aussi très émouvant dans les expos de l'IMEC, c'est qu'on se retrouve face à cette matière très sensible et vivante qu'est l'écriture manuscrite ou dactylographiée. Toujours très touchant. Et là, c'est encore plus émouvant parce que on n'est pas face à des brouillons d'œuvres, mais face à des notes personnelles, des traces intimes. Alors, ma question à Claire Pollan est la suivante. Est-ce que dans certains cas, les rêves que vous avez exhumés ont pu apporter un éclairage sur l'œuvre de leur auteur? Ou bien avez-vous vu parfois apparaître des échos très nets entre l'univers de leurs rêves et leur œuvre? Voilà, merci beaucoup.
Quoi, ça vous paraît grand comme question?
Oui, ça me paraît terrible comme question.
Merci beaucoup, Émilie, pour ce retour de visite déjà à l'IMEC à Caen. Et puis, Claire Pollan, sur l'idée que dans ces notes de rêve, on pourrait éclairer certains aspects, notamment quand il s'agit d'auteurs et d'autrices dont on connaîtrait l'œuvre.
Oui, je crois que dans le cas de Béatrix Beck, et on le voit même dans la manière dont elle tient ses carnets, donc elle note tous ses rêves, elle caviarde certaines phrases non terminées, mais il y a aussi ces traits qui barrent complètement tout un rêve qu'elle a fait, et on suppose que c'est parce qu'elle l'a relu et introduit dans un de ses romans, d'une manière ou d'une autre.
Alors, j'ai
pas fait de la comparaison ligne à ligne, mais c'est ce que dit sa famille, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est pas un cas qu'on retrouve forcément de manière...
circulation évidente des prises de notes de rêve et l'introduction dans un imaginaire qui serait romanesque. Mais pour revenir à Georges Perec, on n'a pas été au bout, loin s'en faut, de l'évocation de la boutique obscure que vous faites au début, Olivier Schaeffer, parce que dans ce texte de 1968, il parle d'un rêve. Comme de bien entendu je rêve et je sais que je rêve, comme de bien entendu que je suis dans un camp, il ne s'agit pas vraiment d'un camp, bien entendu. C'est une image de camp, un rêve de camp, un camp métaphore, un camp dont je sais qu'il n'est qu'une image familière, comme si je refaisais inlassablement le même rêve, comme si je ne faisais jamais d'autres rêves, comme si je ne faisais jamais rien d'autre que rêver de ce camp. Incroyable texte, où d'ailleurs l'idée de la circularité de la phrase et de la reprise permanente pour être capable d'attraper quelque chose de ce contenu des nuits est contenue dans la rythmique de la phrase de Perec. Là, on peut dire, pour répondre à Émilie, il y a quelque chose de cette pensée du rêve qui nous éclaire quand même sur l'œuvre de Perec.
Absolument. Perec disait qu'il n'avait aucun souvenir d'enfance. Et donc l'écriture a produit ces maisons, ces lieux, ces souvenirs.
Pour rappel, sa mère est morte à Auschwitz.
Dans le camp. Et donc il a été hanté absolument par tout ça. Et le rêve est le lieu des revenants aussi. Il faut le dire, des fantômes.
C'est pour ça qu'il... Troisième mot. brouillon, vision, fantôme.
Oui, c'est ça. Et nos souvenirs sont des fantômes. Enfin, ils viennent pour nous se rappeler à nous, se rappeler qu'ils ont existé, qu'ils ne sont plus. Et donc, Perec, évidemment, est face à tout ça. Et quand il écrit, il donne une place à ces questions. Il commence effectivement par un cauchemar, par ce cauchemar d'un enfermement. Les autres rêves dans Boutique Obscure sont parfois très simples. Il n'y a pas de pathos, hein. Même dans ce rêve-là, vous voyez bien que c'est une description, une tentative d'épuisement d'un lieu, comme il pourrait le dire par ailleurs. Il n'y a aucun pathos, il y a une sobriété qui est assez frappante, assez émouvante aussi. Peut-être pour répondre aussi, si vous voulez bien, à Émilie, oui, j'aimerais bien juste ajouter un mot. Moi, ça me fait l'idée, parce que c'est présent dans les archives et aussi dans le livre, les rêves de Franz Kafka, qui ont été une partie des rêves de Kafka rassemblés par Félix Guattari, et ça aussi, ça fait partie du fonds d'archives de l'IMEX, un manuscrit incroyable, dont il existe à présent une édition, les éditions Ligne, hein, et donc Guattari, pardon.
L'édition, c'est les...
C'est pas l'édition de l'IMEC, hein. Enfin, c'est avec l'IMEC.
Mais l'édition, ce sont les schémas de Guattari sur les rêves de Kafka?
Non. Oui. Non, c'est Guattari qui puise des rêves dans l'œuvre de Franz Kafka, surtout dans sa correspondance et dans son journal. Et à un moment donné, il dit, finalement, quand on regarde comment Kafka raconte ses rêves, on ne sait plus si on est face à un fragment narratif de Kafka ou si ça, on est face à un rêve de Kafka. Et peut-être que là aussi, Kafka, finalement, rêvait comme il écrivait et écrivait comme il rêvait. Et la porosité devient très...
Mais d'ailleurs, on va rester sur cette question de l'imaginaire parce qu'on a assez peu parlé de ce des images qui étaient produites. Alors, on va pas aller sur le champ des images photographiques et des images de cinéma parce qu'on est au book club, même si ça existe dans le livre, mais des images littéraires qui sont produites. On va écouter la voix, justement, de Béatrix Beck, ici dans une archive de 2000, émission Surpris par la nuit sur France Culture.
En général, je ne me souviens pas de mes rêves. Et pour moi, c'était très important. Enfin, mais justement, je me souviens d'un rêve que j'ai fait cette nuit, et il y a la dramatisation du rêve dont a parlé Freud. D'ailleurs, le matériau, comme il l'a dit, c'est toujours la veille. Là, j'avais vu une émission amusante, qui se veut amusante, à propos du poète Lonely Cowboy, vous savez. Il est dans le désert, et dans le désert, il y a des cactées géantes. Il la perce comme il arrive qu'on le fasse dans la réalité, parce qu'il en sort de l'eau. Et dans mon rêve, on perçait et il en sortait du sang.
La voix de l'autrice Béatrix Beck en 2000 dans Surpris par la nuit sur France Culture. Sa voix, elle est presque sortie d'un rêve. Et en effet, dans le rêve, il y a cette prodigieuse inventivité ou agencement langagier ou imagé de l'inconscient qui produit un texte qui, si on l'écoute, pour reprendre ce que vous disiez, Olivier Schaeffer, voilà, peut nous rendre chanceux, ça peut nous permettre d'accéder à des univers incroyables. Là, on l'entend en quatre phrases dans la voix de Béatrix Beck, des cactés, c'est quoi, c'est le pluriel de cactus?
Des cactus, oui,
ouais, j'imagine.
C'est magnifique.
Mais venu d'une émission qu'elle a vue la veille, qui d'un seul coup perce pour faire couler du sang et non plus de l'eau. Et ce sont aussi des images qui arrivent quand on voit les journaux de Béatrix Beck. Et il y a tout des images, des imaginaires qui sont produites.
Oui, ce qu'elle souligne bien, finalement, et c'est un des mystères du rêve, c'est que dans le rêve, tout est réel.
Tout est possible.
Le rêve est composé de restes durs, on le sait bien. Et ce qui a amené, d'ailleurs, c'est une des questions aussi fascinantes qu'on a abordées, à solliciter tous ces auteurs, ces autrices qui se demandent, mais quelle est la différence, en fait, entre le rêve et la réalité, puisque dans les rêves, il y a des éléments qui sont des éléments réels, des cactus, de l'eau, etc. La différence, une des différences...
C'est l'agencement.
C'est l'agencement, c'est la combinaison. C'est que les rêves sont effectivement des montages très étranges, désordonnés et ordonnés à la fois. Et donc, ça a un potentiel de production d'images qui est tout à fait fascinant. Des images qui émergent du choc, je dirais, les surréalistes, de la rencontre imprévue entre des réalités qui n'ont apparemment rien à faire les unes avec les autres. Hein. Mais donc, c'est cette tension permanente, je trouve, entre le réel et l'imaginaire qui est tout à fait frappant. Comment l'imaginaire peut naître d'une combinaison étrange, en fait, de réalité.
Et c'est là qu'intervient ma petite passion schéma. Je pense à une très belle exposition qui avait eu lieu à la BNF qui s'appelait Images de pensée et dont je garde si précieusement le catalogue. Mais il y a quelques schémas dans les archives que vous avez rassemblés, Claire Pollan et Olivier Schaeffer, qui tentent d'essayer d'organiser, justement, à la fois d'essayer d'organiser, de produire du sens. Est-ce que vous en avez un que vous voudriez rapidement nous décrire? Claire Polan.
Il y a le schéma de Catherine Clément où elle raconte, elle essaye de schématiser le rêve de l'injection faite à Irma, qui est un rêve de Freud.
Un rêve de Freud fondamental.
Et elle en fait toute une page comme ça, avec des flèches dans tous les sens, pour le au penser. Milieu, pour le penser et comprendre ce qui se passe et comprendre aussi comment Freud met en avant ce rêve qui a l'air si transparent pour tous les amateurs de freudisme, et sauf pour lui finalement. Enfin, il y a une sorte de contradiction qui est mise en avant dans le schéma.
Pourquoi est-ce que le schéma se retrouve à plusieurs reprises d'après vous, Olivier Schaeffer ?
Moi, je sais, quand j'ai des étudiants qui commencent à faire des schémas au tableau, c'est en général qu'ils n'ont rien compris. et plus les schémas sont alambiqués, plus on s'y perd, en fait. Je trouve ça très, très beau.
Mais ça nous aide à penser.
Ça nous aide. Ça
on fiche, croit-on.
C'est une image de pensée, d'un état de la pensée. Et en même temps, ça complexifie les choses. Parce qu'on cherche par tous les moyens possibles. Hein. Peut-être que l'image, en effet, s'impose à un moment donné comme une
face au rêve.
Face au rêve, parce que le rêve produit des images. Le rêve pense par image, disait Freud. Les romantiques le disaient déjà. Donc le schéma.
Et vous citez Lacan dans le rêve, oui, ça montre.
Ça montre, oui, c'est ça. Et donc voilà, le schéma est une sorte de prolongement de cet état visuel, en fait, du rêve.
Oui. D'ailleurs, on n'a pas été là. Je le redis, hein, mais sur tout le côté très iconographique qui existe et dans l'exposition et dans le livre. Qui est passionnant. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque semaine, à cette heure-ci, on prend des nouvelles du livre En dehors de nos frontières, grâce à la rédaction internationale de Radio France. Aujourd'hui, on se rend en Irlande avec vous, Clémence Pénard. Bonjour Clémence.
Bonjour Marie.
Vous revenez sur l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire irlandaise, celui des foyers pour mères et bébés, qu'on appelait ici les maisons maternelles, un scandale national, au cœur d'un roman qui s'appelle Small Things Like This de Claire Keegan, paru certes en 2021, Clémence, mais plus que jamais d'actualité cette semaine.
Oui, pendant des décennies en Irlande, des milliers de femmes tombées enceintes hors mariage ont été internées de force dans ces foyers dirigés par l'Église catholique. Et beaucoup de leurs bébés n'ont pas survécu et ont été enterrés dans le secret. Mais après des années de silence, les premiers travaux d'exhumation ont débuté cette semaine à l'ouest de l'Irlande, à Tuam, l'un de ces tristement célèbres foyers pour mères et bébés. Ils avaient 1-2 mois, parfois à peine quelques jours. Ce sont près de 800 corps d'enfants qui reposerait sous la pelouse à proximité de ce bâtiment.
Est-ce que vous avez évoqué le roman de Claire Keegan, une œuvre de fiction, mais ancrée dans des faits bien réels?
Oui, Small Things Like This, en VO, en français, ce genre de petites choses, est un court roman de 120 pages qui raconte l'histoire d'un homme ordinaire dans une petite ville irlandaise. Nous sommes en 1985, à la veille de Noël. Bill Furlong est marchand de charbon. Chaque soir, en rentrant chez lui, il nettoie la poussière noire de ses ongles et, en bon père de famille, aide ses 5 filles à faire leurs devoirs. Or, Noël lui fait penser à sa propre mère, chassée de la maison familiale après être tombée enceinte à 16 ans. Si elle a pu survivre avec son fils, c'est uniquement grâce à la générosité de son employeuse, mais beaucoup n'auront pas cette chance.
C'est ce que Bill va découvrir lors d'une livraison de charbon au couvent de sa ville.
Oui, Bill réalise que le couvent abrite en réalité une Magdalen Laundry, ces blanchisseries où l'on faisait travailler sans répit ni salaire des femmes rejetées par la société pour leur supposée mauvaise conduite. Et lorsqu'une de ces femmes mettait un enfant au monde, les religieuses dont la charité n'a que le nom, faisaient bien souvent adopter le bébé, notamment aux États-Unis, quand il ne mourait pas d'une épidémie ou tout simplement de négligence. Mais Bill, lui, refuse de détourner le regard. Small Things Like This, c'est l'histoire d'un petit geste, mais un geste juste et courageux quand toute une société choisit de se taire.
Et ce livre, Clément, ce si beau livre, arrache donc de l'oubli les destins brisés de ces femmes et de leurs enfants.
Absolument, et le roman finaliste du Booker Prize a rencontré un large succès, si bien qu'il a récemment été adapté au cinéma avec l'acteur oscarisé Cillian Murphy dans le rôle principal, sorti en salle en France fin avril. Et avec ses premières fouilles à Tuam, en prévision de l'exhumation qui débutera mi-juillet, les survivantes du foyer, leurs familles, vont donc peut-être enfin obtenir des réponses. Tout cela n'aurait évidemment pas été possible sans leur combat et le travail acharné pendant des années d'une historienne, Catherine Corliss. Methuam n'est qu'un exemple parmi 18 foyers similaires en Irlande. Le dernier d'entre eux, à Cork, n'a fermé ses portes qu'en 1998.
Merci beaucoup Clémence. On rappelle le titre du livre en français, c'est « Ce genre de petites choses » de Claire Keegan. Et il a paru aux éditions Sabine Vespizer, comme d'autres romans de Claire Keegan que je vous encourage véritablement à découvrir ou redécouvrir. On peut vous réécouter Clémence, Lecture sans frontières, franceculture.fr. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'évocations de musique dans les archives de rêves que vous avez trouvées à l'IMEC, Claire Pollan, Olivier Schaeffer.
Je ne me rappelle pas spécialement.
Assez peu.
Ouais. Non, mais il y a des rythmes.
Il y a des rythmes.
On parlait de vitesse. Voilà, il y a un rythme des rêves.
Accélération, oui.
Accélération.
Ouais, on a peu été sur
souvent
ça.
Souvent la vitesse, parfois aussi. Quelques ralentis. Mais, et donc, ces textes sont aussi des annotations de rythme, on pourrait dire.
C'est habile, c'est très habile. Ici, nous cherchons ardemment la musique et les évocations musicales dans les textes. On propose à nos auditeurs et auditrices de jouer à ce grand jeu des pages musicales. Le principe est simple, quand ils lisent un livre, ils prennent en photo l'évocation d'un air musical. La page est envoyée ou bien via le mail, c'est comme ça qu'a procédé aujourd'hui Betty, ou bien via le compte Instagram du Book Club de France Culture. Betty, donc, nous suggère un extrait de La Montagne Magique de Thomas Mann. Le rêve que faisait Hans Castorp en écoutant ce morceau était le suivant. Il était couché sur le dos, dans un pré ensoleillé et parsemé de fleurs étoilées de toutes les couleurs. Il avait un petit tertre sous sa tête, tenait une jambe repliée, l'autre croisée sur elle, à quoi il faut ajouter que c'était des pieds de bouc qu'il croisait. Ses doigts jouaient, pour son propre plaisir, car la solitude du pré était complète, sur une petite flûte de bois, dont il tirait des sons paisibles, l'un après l'autre, au hasard, et pourtant dans une ronde parfaite. Il y avait encore là un troisième morceau. C'était de nouveau un morceau français, tiré d'un opéra que Hans Castorp connaissait bien, « La fleur que tu m'avais jetée ». Le soldat chantait la fleur que Carmen lui avait jetée à leur première rencontre et qui avait été son bien le plus cher lorsqu'il fut mis aux arrêts à cause d'elle. Claire Pollan d'avoir été avec nous pour évoquer l'exposition Fragments du rêve que l'on peut voir en ce moment à l'IMEC à Caen. C'est jusqu'au 30 novembre 2025. À la fois on a le temps, à la fois il faut faire les choses quand on peut les faire. Merci beaucoup Olivier Schaeffer d'avoir été avec nous pour évoquer cette exposition et ce livre Fragments du rêve paru aux éditions de l'IMEC. Je vais laisser le générique à Julie et Louison qui sont en stage. À vous de jouer.
Au son Noé Chaban.
À la réalisation Vivien Demeyer.
Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et aujourd'hui particulièrement à Louisotte.
Vous pouvez réécouter l'émission sur l'application Radio France.
Bon après-midi sur France Culture.
C'est chic.